on va continuer notre étude dans Genèse au chapitre 32, les 23 premiers versets. Alors, le titre que j'ai donné à cette étude-là de ce matin qu'on va faire, c'est « Le Seigneur prépare ses élus à affronter les crises ». On a vu qu'il y avait déjà eu une crise dans la vie de Jacob, et celui que quand il s'est sauvé de son beau-père, là, il y a eu la première crise et il a vraiment eu la frousse de sa vie quand son beau-père l'a rattrapé. On a vu que Dieu avait eu miséricorde envers lui en permettant que ça ne se détériore pas trop. Il cherchait ses théraphimes, il ne les a pas trouvés. En tout cas, Dieu a fait en sorte qu'ils se sont quittés en paix et c'était une bénédiction pour lui. Et quand je dis « Le Seigneur prépare ses élus à affronter les crises », il avait préparé Jacob à affronter la première crise, celle avec son beau-père, celle avec Laban. On sait que Laban, c'est un joueur de tour, c'est un homme un petit peu dur, c'est un homme un petit peu exploiteur. Et Dieu a permis que sa première crise, il l'a traversée. Ce qui est intéressant quand on étudie un chapitre comme celui de ce matin, c'est de voir que le Seigneur, il permet des crises aussi dans nos propres vies. Et le titre, c'est vrai que ça s'adressait à Jacob, mais ça s'adresse aussi à nous. Le Seigneur nous prépare. Quand il nous fait traverser des crises, il nous prépare à les traverser, ces crises-là. Alors, on va regarder trois idées à l'intérieur des 23 versets. Le Seigneur va préparer son élu Jacob à affronter les crises. Il va d'abord lui démontrer qu'il y a une crise appréhendée. Une crise appréhendée, ça veut dire que j'imagine une situation de quelque chose qui va être difficile, puis ma machine à cinéma, elle se met à marcher. Vu qu'on a de ça, une machine à cinéma, hein, on a tout. Fait que des fois, les crises appréhendées, ça veut dire que bien souvent, on s'en fait pour des choses qui n'arrivent même pas. On se fait du sang de cochon, comme on dit en québécois. Mais souvent, les choses qu'on s'imagine qui vont arriver, puis là, on se dit, ah, il va arriver ci, il va arriver ça, il va arriver ci, il va arriver ça. Puis bien souvent, quand l'événement qui est supposé d'arriver n'arrive pas, bien, c'est parce que Dieu t'a préparé une bénédiction ou il t'a fait une grâce pour que tu puisses la traverser. Donc, les crises appréhendées. Et des versets 9 à 12, on va voir que Dieu aussi permet tes crises, il va permettre que tu te les appropries, que tu comprennes qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'en vient, puis que tu vas les voir comme les tiennes, et que tu vas avoir le réflexe de t'adresser à Dieu. Quand vous les versez, les versets, il dit, « Seigneur, toi qui m'as promis de sortir en paix, toi qui m'as promis, si ça, il s'adresse à Dieu parce qu'il sait qu'il par lui-même, il ne sera pas capable d'affronter ce qui s'en vient. Il faut se souvenir que son frère Ésaü était en colère. Même si ça s'est passé il y a 20 ans, il y a des fois, il y a des colères que même au bout de 20 ans, ils ne sont pas calmés encore. Vous savez ça? Il y en a qui ont la mémoire longue, comme on dit. Et là, il avait vraiment peur. Même si Dieu lui avait dit, retourne dans ton pays, je serai avec toi, je vais t'accompagner, je vais te protéger, il y avait les quételles, comme on dit. Parce qu'il se dit. Et là, voyez-vous, il utilise des petits moyens humains. Moyens humains, il dit, bon, il est rendu à deux camps. Il met ceux-là qui aiment le moins en avant. Et là, il commence à y envoyer des troupeaux. Quand vous regardez la quantité de choses qu'il lui a envoyées, le nombre d'animaux, là, tantôt, on va revenir là-dessus. Pour l'époque, c'était une fortune. Puis, lui, il ne devait rien, dans le fond, à Ésaü. Mais il avait peur et c'était sa façon à lui d'essayer de l'amadouer. Je voyais envoyer des animaux, puis je ne l'enverrai pas tout d'une shot. Mais vous, quand vous regardez le texte, il dit, oui, envoyé par un petit groupe, là, il va te demander, c'est qui ça? C'est quoi ça? Et tu leur répondras, c'est ton serviteur qui t'envoie des choses, des biens. Et il divise ça en trois. Donc, on voit que quand on a des crises à affronter, on est porté à utiliser des moyens humains. Puis quand on va faire tout le chapitre complet, on va se rendre compte qu'en fin de compte, il va y avoir une lutte avec un homme, ceux qui ont lu le chapitre 32, et en fin de compte, il ne va rien y arriver, quand il va rencontrer son frère Ésaü, son frère Ésaü va le sauter au bras, puis ils vont pleurer dans les bras l'un de l'autre. Alors qu'il y avait, il était sûr que son frère... Imaginez-vous, tu t'en vas rejoindre ton frère, puis tu envoies des messages, puis là, la personne qui revient te voir, elle ne te dit pas, « Ah non, Ésaü est de bonne humeur. » La personne qui revient te voir a dit, « Il s'en vient avec 400 hommes. » Fait que là, il a, comme ça dit, il était angoissé, il était effrayé, et là, il avait vraiment peur du moment de la rencontre. Et quand on lit toute l'histoire, quand on dit Dieu nous prépare, le titre est choisi volontairement, Dieu nous prépare, et souvent, l'appréhension qu'on a de la crise que le Seigneur va nous faire traverser n'existe même pas. On s'est énervé les kettles, la balloune pour rien. Alors, c'est important. Mais si on veut bien apprécier le texte de ce matin, ça fait trois sermons que je le fais, mais je le refais encore. Parce que si on ne le fait pas, à ce moment-là, on manque le bateau dans le sens d'apprécier que le Seigneur avait fait des promesses à Jacob. Et c'était dans Genèse 28, 13 à 15, le fameux passage où il y avait eu une apparition d'une échelle entre le ciel et la terre, il voyait des anges monter et descendre. Alors, des fameuses promesses. Parce que si on relit le texte de 32, puis on se souvient pas qu'est-ce que le Seigneur avait promis dans Genèse 28, à quelque part, on manque le bateau. Alors, on va les relire pour que ça soit frais à notre mémoire. Genèse 28, verset 13 à 15. « Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Et ta postérité sera comme la poussière de la terre, et tu te répandras à l'Occident et à l'Orient, au Nord et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Et voici, je suis avec toi, et je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai en ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai fait ce que je t'ai dit. » Quand l'Éternel parle, la différence avec les paroles d'hommes, les hommes, ils disent, tu sortes d'affaires, mais ils tiennent rarement leurs promesses. Ça arrive que des hommes tiennent leurs promesses, là. Mais des fois, on a des beaux exemples avec nos politiciens, par exemple. Ils en disent plein de choses, ils nous promettent plein de choses, mais quand ils viennent de l'accomplir, souvent, il en manque des petits bouts, comme on dit. Alors, ce qui est important de réaliser, quand il parle, il y a des promesses à deux niveaux, là, dans Genèse 28, 13 à 15, il y a des promesses à deux niveaux. D'abord, il lui renouvelle les promesses de l'Alliance, qui promet la semence, il permet de sa postérité. Et on a vu au cours des semaines dernières que cette fameuse postérité-là, c'est la personne de Jésus-Christ. Les promesses se réalisent en Jésus-Christ et à cause de Jésus-Christ. Galates 3:16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit « et à sa postérité » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme d'une seule, et à ta postérité qui est Christ. Autrement dit, les promesses que Dieu avait faites à Abraham, c'était pour sa postérité, et la parole nous dit c'est qui sa postérité? C'est la personne même de Jésus-Christ. Et il dit que sa descendance sera aussi nombreuse que le sable de la mer. Alors on imagine Jacob qui s'en va rejoindre son frère, le Seigneur lui a dit, « Va dans ton pays, je vais être avec toi, je vais te protéger. » Puis là, lui, il envoie des messagers, puis l'autre, il revient, il dit, « Ton frère s'en vient avec 400 hommes. » Alors là, lui, la promesse que Dieu lui a faite, il devait commencer à se dire, « Ouais, mais là, ça ne marchera pas, là. Il s'en vient m'attaquer avec 400 hommes. » Il ne voit pas comment Dieu peut faire pour réaliser sa promesse. Et dans le verset 15, ce qui est important de se souvenir, c'est les promesses que Dieu fait à Jacob, qui sont personnelles, sont au nombre de 5, dans le verset 15. La présence divine, parce qu'il lui dit, « Et voici, je suis avec toi. » Alors, quand il part pour aller rejoindre son frère, Ésaü, même s'il sait que son frère est en colère contre lui, qu'il a l'intention de le tuer, du moins c'est dans sa tête que ça se passe, le Seigneur a dit « Je suis avec toi ». Supposons que le Seigneur nous demanderait quelque chose, d'aller quelque part, puis le Seigneur nous dirait avant de partir « Voici, je vais être avec toi ». On aurait-tu des raisons d'avoir peur en cours de chemin? Si le Seigneur nous a dit, si on croit ce qu'il nous a dit. Le problème, c'est que le Seigneur fait des promesses, on les lit, mais on a de la misère à croire ce qu'il nous a dit. C'est ça qui se passe. La deuxième chose qu'il lui dit, « Et je te garderai partout où tu iras. » Donc, la protection divine. La présence divine, la protection divine. Puis quand il dit, « Je te ramènerai en ce pays. » Là, bien sûr, lui, il voit la difficulté. Comment veux-tu que je m'en retourne dans mon pays? Mon frère s'en vient, puis il a l'intention de me tuer. Ça va pas bien. Dieu, il a dit, je vais m'assurer de ta direction, la direction divine. Je te ramènerai dans ce pays. Et lui avait dit aussi, car je ne t'abandonnerai point. Autrement dit, la soutenance divine. Dieu a dit, durant tout ton voyage, durant toute ta vie, et il nous fait la même chose à nous, il va nous soutenir durant tout le trajet. N'est-ce pas qu'il y a des bouts difficiles dans la vie, hein? Sur le chemin du paradis, là, entre le moment qu'on est sauvé et le moment qu'on arrive au port, n'est-ce pas qu'il y a des bouts difficiles? Mais n'est-ce pas que le Seigneur nous dit aussi, à nous aussi, je ne t'abandonnerai point. C'est pas juste dit dans ce passage-là, c'est plein, dit dans plein d'autres passages. Le Seigneur, ceux qui lui appartiennent vraiment, il ne nous abandonnera jamais, peu importe les circonstances. Même si parfois, on a l'impression qu'il nous abandonne. Qu'est-ce que j'ai fait, le Seigneur? Pourquoi tu m'abandonnes? N'est-ce pas qu'on est de même, hein? On est de même. Et la dernière chose qu'il dit, c'est qu'il veut lui rappeler qu'il est fidèle. Parce qu'il dit que je n'ai fait ce que je t'ai dit. Autrement dit, quand Dieu parle, dis-toi une chose. Même s'il y a des difficultés, ça va finir par s'accomplir. Alors, on voit la première idée, versets 1 à 8. Les crises qui s'en viennent dans la vie sont appréhendées. Et souvent, Dieu a préparé la rencontre dans le sens que Dieu a donné des signes avant-coureurs à Jacob que tout ça se terminerait bien. Mais il ne les a pas lus correctement, autrement dit. Parce que ça dit, Jacob continua son chemin, donc à partir du moment qu'il se séparait avec son beau-père, il continuait son chemin, et des anges de Dieu le rencontrèrent. De suite là, ça aurait dû lui allumer une lumière. Les anges de Dieu le rencontrèrent. Et Jacob dit, quand il les eut vus, c'est le camp de Dieu. Voyez-vous, il les a vus, il a reconnu que ça venait du Seigneur, mais il n'a pas vraiment cru que c'était envoyé par le Seigneur pour le protéger et pour qu'il se rende au bout de son voyage. Et il appela ce lieu-là Mahanaïm, qui veut dire les deux camps. Autrement dit, son camp à lui et le camp de Dieu, le camp des anges qu'il rencontre. Alors, le Seigneur, il prépare son serviteur Jacob à vivre une prochaine crise dans sa vie, celle de la rencontre de son frère Ésaü, qu'il sait dans une grande colère contre lui. Supposons que vous êtes avec vos femmes, puis vos enfants, puis des brebis, puis des vaches, puis tout ce que tu voudras, des animaux, puis qu'à un moment donné, t'apprends que ton frère qui veut te tuer s'en vient à ta rencontre avec 400 hommes. Oh, ça va pas bien dans ta tête, là. Ça tourne vraiment beaucoup. Alors, il est dans le chemin de l'obéissance, parce que Dieu lui a dit de quitter le pays et de s'en retourner dans son pays, puis qu'il, non seulement Dieu approuve, mais Dieu commande. Il est dans l'obéissance, mais la leçon à retenir pour nous, là, c'est quand même des fois, on peut être dans l'obéissance et Dieu permet qu'on rencontre une crise. Et il faut faire confiance au Seigneur. Dieu a pitié de lui en lui permettant qu'il perçoive que de l'aide céleste lui est envoyée. Il la perçoit, mais il n'y croit pas. Ça peut-tu arriver que nous autres aussi, des fois, on traverse des crises comme ça? Dieu nous envoie comme des signes qu'on va traverser la crise, mais on dirait qu'on n'y croit pas, notre chair qui prend le dessus. Ici, je pense qu'il est important de se rappeler des vérités concernant le ministère des anges auprès des élus. Nous, si on est des véritables croyants, on est des élus. Dieu dit qu'il envoie des anges dans nos vies pour toutes sortes de raisons. N'avez-vous déjà vu un, vous autres?
Non.
Moi, je n'ai jamais vu. Mais ça veut-tu dire que parce que je ne l'ai pas vu, que Dieu ne les envoie pas quand même? C'est sûr. Hein? Alors, quand on prend Hébreux, chapitre 1, verset 14, verset 13, c'est-à-dire, et 14, « Et auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis le marchepied de tes pieds. » Ne sont-ils pas tous des esprits destinés à servir et envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? » Le Seigneur est en train de te dire qu'il y a un ministère, les anges ont un ministère et ils sont envoyés auprès de nous, les élus, ceux qui doivent hériter du salut, pour exercer un ministère. Ça peut être de la protection, ça peut être plein de choses. Et ça, c'est ce que la Bible nous dit. Psaume 103, versets 19 et 20. « L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous, ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. » La parole nous dit que Dieu utilise le ministère des anges dans nos vies depuis qu'on est sauvé et il va l'exercer jusqu'à temps qu'on sorte de ce monde. C'est intéressant, ça, hein?
Oui.
De savoir ça. Pourtant, on n'est pas tout le temps conscient de ce que ça arrive. Je me souviens une fois, moi, j'étais à Sherbrooke, puis je traversais la rue. Puis il y a un auto qui a tourné, là. D'après moi, elle devait tourner à 80 km à l'heure. Puis moi, il m'a frôlé le pantalon. J'ai senti le bumper me frôler le pantalon. C'est... Fait que là, des fois, je me disais, moi, c'est dans ces occasions-là que je pense que le Seigneur envoie des anges. Une autre fois, j'ai pris le champ, puis je m'en allais vraiment sur un gros tuyau là, pour le frapper. Puis dans ma tête à moi, là, je me suis dit, t'as le temps de penser, t'as pas le temps longtemps, là, mais t'as le temps quand même. Dans ma tête à moi, je me suis dit, ça y est, c'est aujourd'hui que je meurs.
Ouais.
Pourtant, il ne m'est rien arrivé du tout. Je suis sorti du char par la fenêtre, puis il y a une madame qui était dans une maison, elle a vu ça. Vous êtes-vous faites mal? J'ai dit non, mais je ne comprends pas pourquoi. C'est, à quelque part, je pense que Dieu intervient comme ça, par les anges, mais nous, on ne le perçoit pas nécessairement comme un ange. Comme là, on ne sait pas, le Seigneur a peut-être permis que l'ange me pousse un peu, que le char me... Il m'a pris pas la jambe, il m'a rappogné une jambe, je t'ai fait, moi, là. Mais le Seigneur, je pense qu'il envoie ça dans nos vies à tout le monde. Toutes sortes de circonstances qui, à première vue, peuvent sembler bizarres, mais dans le fond, c'est Dieu qui envoie des anges dans ta vie pour exercer un ministère tel que la parole de Dieu nous le dit. Donc, il y a des anges qui sont envoyés à la rencontre de Jacob. Bien sûr, ça, c'est une initiative divine. C'est pas Jacob qui a dit à Dieu, « Ben là, Seigneur, j'apprécierais beaucoup que tu me montres que tu vas t'occuper de moi et que tu vas me protéger. » C'est Dieu qui l'envoie. Lui, il voit l'ange, il reconnaît que c'est l'envoi de Dieu, mais il ne semble pas, d'après les autres versets, qu'il ait vraiment confiance que Dieu va le protéger. Donc, l'envoi des anges arrive au bon moment et il renvoie les anges avant que la crise qu'il rencontre Ésaü. Alors, la perception que Jacob a est partielle et il saisit que le Seigneur veut lui rappeler les délivrances passées, qu'il continue de l'accompagner, de le réconforter, de le protéger. Et il perçoit que c'est l'armée de Dieu. Il dit, c'est le camp de Dieu Donc, il le perçoit, il le voit, mais pourquoi qu'il a peur encore d'abord? Qu'est-ce que ça nous apprend? Que comme croyant, on est faible. Même quand Dieu envoie des signes comme de, pour nous rassurer, on n'en tient pas toujours compte. Versets 3 à 5, et là qu'on voit qu'il n'a pas vraiment compris, parce que s'il avait vraiment compris, il aurait dit, les anges sont là, Dieu me les envoie pour me protéger. Il n'aurait pas eu peur. Mais là, on voit, de versets 3 à 5, Jacob envoya des messagers devant lui, vers Ésaü, son frère, au pays de Séir, au champ d'Édom. Il leur commanda en disant, vous parlerez ainsi... Regardez les mots qu'il utilise. Vous parlerez ainsi à Ésaü, mon Seigneur. Mon Seigneur? Qu'est-ce qu'Ésaü avait dans une relation de Seigneur? Le Seigneur avait dit qu'il bénirait le plus jeune et que le plus jeune dominerait le plus vieux. Donc, c'était plutôt Ésaü. Jacob était le Seigneur d'Ésaü et non pas l'inverse. Et lui, il a tellement peur que là, il se met à vouloir le flatter dans le sens du poil. Il dit, je vais l'appeler mon Seigneur. Bon, ça va peut-être calmer les nerfs un peu. Il dit, ainsi a dit ton serviteur, et gardez le mot qu'il utilise, ton serviteur Jacob. Est-ce qu'il était le serviteur? Dieu avait dit, lors du choix de Jacob sur Ésaü, que Jacob dominerait le plus vieux. Et lui, ici, il dit qu'il est son serviteur. Et là, il dit, vous lui direz ça. J'ai séjourné chez Jabin, c'est Laban, j'y ai demeuré jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs, des servantes. Et j'envoie l'annoncer à mon serviteur afin de trouver grâce devant tes yeux. Alors, il veut trouver grâce, plutôt que de demander grâce à Dieu, il demande grâce à son frère. C'est pas quelque chose qui va pas là. Alors, Jacob semble croire que ses manigances pour amadouer son frère sont supérieures à l'armée de Dieu qu'il vient de voir. Des fois, on ne lit pas tout. Quand on lit rapidement, là, on ne comprend pas la peine de méditer, on ne les voit pas tout le temps, ces choses-là, n'est-ce pas? Mais quand on les voit, c'est des choses merveilleuses, parce que Dieu lui avait envoyé quelque chose pour le rassurer, mais c'est comme ça ne le rassurait pas vraiment. Il fallait qu'ils disent, envoyer du monde, puis envoyer des brebis, des ânes, des animaux. Puis là, dire, appeler son frère, son seigneur, et lui se traiter de serviteur face à son frère. Alors, il utilise vraiment un langage inapproprié en appelant son frère seigneur. Et aussi, il ne dit pas toute la vérité à son frère, il ne dit pas qu'il s'est enfui. Et toute son aventure avec son beau-père Laban. Si on recule un petit peu plus loin, un petit peu en arrière, dans Genèse 27, c'est important qu'on le fasse parce que quand on voit ce qu'il dit, puis ce que le Seigneur avait dit, on voit que ça marche pas là. Genèse 27, verset 29. Quand le Seigneur avait béni Isaac, il l'avait rendu maître de son frère Ésaü. Et là, lui, il est en train de virer la situation à l'envers. Parce que ça dit que des peuples te servent et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Quiconque te maudira soit maudit et quiconque te bénira soit béni. Autrement dit, Dieu lui avait annoncé d'avance qu'il dominerait sur son frère, et non pas l'inverse. Il est en train de faire l'inverse. Il appelle son frère son seigneur, alors que c'est lui qui est le seigneur sur lui, sur Ésaü. Versets 6 à 8 maintenant. Là, il a envoyé tout ce monde-là devant lui pour préparer son frère pour essayer de l'amadouer. Et les messagers revinrent auprès de Jacob en disant, « Nous sommes allés vers ton frère Ésaü, et il marche aussi à ta rencontre avec 400 hommes. » Il lui dit pas, on l'a rencontré, on a jasé avec, et il est de bonne humeur, fais-toi-en pas. Il fait juste lui dire, Ésaü, puis lui dans sa tête, il m'haït, il veut me tuer, il s'en vient à sa rencontre avec 400 hommes, il n'était pas organisé pour se battre avec lui, il n'avait pas ce qu'il faut. Alors il dit, alors Jacob fut très effrayé. Quelqu'un qui vous haït, puis qui s'en vient à votre rencontre avec 400 hommes, si vous n'aviez pas eu peur, c'est pas normal. Et il fut rempli d'angoisse. Donc, la peur, l'angoisse, autrement dit, « Oh, ça y est, mes derniers jours approchent. » Et il partagea le peuple qui était avec lui, les brebis, les bœufs, les chameaux, en deux camps, et il dit, « Si Ésaü attaque l'un des camps et le frappe, le camp qui restera pourra échapper. » Autrement dit, encore une autre manigance. Puis, quand on lit le texte un petit peu plus en profondeur, on se rend compte que ceux qui ont mis en avant, c'est ceux qui aiment le moins. Donc, c'est les femmes qui aiment le moins, il les met en avant, puis il met les animaux, puis il dit, si eux autres sont massacrés, l'autre camp qui est en arrière, lui, a une chance de se sauver. Fait qu'encore là, il fait pas confiance à Dieu, plutôt, il cherche à utiliser des petites manigances. Alors, comme Ésaü n'a pas exprimé clairement ses intentions et son état d'esprit, mais Jacob imagine le pire lorsqu'il entend le nombre d'hommes qui s'en vient à sa rencontre. Et il se dit, ça y est, 400 hommes, on est fait, on n'est pas ce qu'il faut pour se défendre contre ce gars-là. Et là, sa décision est encore basée sur sa tendance naturelle à utiliser ses trucs et ses habiletés naturelles. Souvenez-vous qu'il l'avait fait, ce petit truc-là aussi, avec les brebis. Et les brebis tachetées, c'est un homme qui est porté à utiliser des tactiques personnelles. Deuxième chose qu'on va regarder, versets 9 à 12, là on se rend compte que quand il réalise qu'il y a 400 hommes qui s'en viennent à sa rencontre, là, il s'adresse à Dieu. Même s'il y avait eu des signes avant-coureurs que Dieu était pour le protéger, et ça dit, puis Jacob dit, et là, il met Dieu dans l'équation. Il dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, éternel, qui m'a dit, retourne dans ton pays et vers ta parenté, je te ferai du bien. Là, il reconnaît dans sa sagesse, dans son humilité, je suis trop petit pour toutes les faveurs et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé le Jourdain avec mon bâton et maintenant je forme deux camps. Autrement dit, qu'est-ce qu'il réalise? Quand je suis allé rencontrer mon beau-père là-bas, j'étais un tout nu, j'avais rien du tout. J'avais mon bâton. Et là, il revient marié avec des femmes, des enfants et plein de richesses. Alors, quand il dit, je suis trop petit pour toutes les faveurs et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé le Jourdain avec mon bâton et maintenant je forme deux camps. Ça veut dire qu'il était rendu une grosse affaire. Et là, il dit à Dieu, délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe, et la mère avec les enfants. Cependant, tu as dit, certainement je te ferai du bien, et je te ferai devenir ta postérité comme le sable de la mer, qu'on ne saurait compter à cause de son grand nom. Et où là, il pogne les quételles, comme on dit, et là, il met Dieu dans l'équation. Seigneur, tu m'as dit, là, il, dans sa tête, ça ne marche plus. Là. Alors, il a le mauvais sens des priorités. Premièrement, il agit en croyant à l'efficacité de ses trucs plutôt qu'à se fier à Dieu. Nous aussi, des fois, quand il nous arrive des affaires, on est porté à se fier à nos petits trucs personnels plutôt qu'à se fier à Dieu lui-même. Deuxièmement, il ne tient pas compte des forces angéliques qui lui ont été envoyées, pourtant qu'il les a reconnues, comme étant très claires. Et troisièmement, il n'utilise la prière que comme dernier recours. Ça vous fait-tu penser à quelque chose? On utilise la prière en dernier recours. Autrement dit, on essaye toutes nos petites gimmicks, nos petits trucs, puis pour essayer de s'en sortir de la crise, plutôt que de suite au début, reconnaître que c'est rien que le Seigneur qui est capable de te sortir de là. Alors, le fait qu'il utilise la prière en dernier, ça nous montre que comme croyants, on est comme Jacob, nous aussi. On est porté à utiliser la prière en dernier recours. Alors que ça ne devrait pas être en dernier recours, ça devrait être en premier recours. Dès qu'il arrive quelque chose, suite Dieu. Nous autres, on est portés à attendre jusqu'à temps qu'on soit rendu jusqu'au bout de nos ressources. Quand on est rendu au bout de nos ressources, là, on met Dieu dans l'équation. Alors ici, il y a une chose importante, par exemple, qu'on lit sur la... On dit que la petite prière qui est ici, qui s'adresse à Dieu, on dit que c'est la première prière des Écritures. La première prière écrite des Écritures. Ça, ils appellent ça, en théologie, ils appellent ça la loi de la première mention. La loi de la première mention, c'est tout simplement lorsque Dieu mentionne quelque chose pour la première fois dans les Écritures, c'est toujours très fortement, pas symbolique, mais je veux dire, Dieu met un enseignement très gros. La première mention des Écritures sur quoi que ce soit, là, c'est toujours que Dieu montre des choses importantes dans cette leçon-là. Qu'est-ce qu'on apprend dans cette prière? La première prière écrite de la Bible. Alors, on apprend une chose. C'est une prière qui comprend plusieurs éléments. Quels éléments? Une prière d'humilité. Je suis trop petit pour toutes les faveurs dont tu m'as donné. N'est-ce pas qu'on peut reconnaître ça, nous aussi, dans nos propres vies? Seigneur, tu m'en donnes des choses, pourtant je fais dur. Pourtant, je suis infidèle. Pourtant, je suis faible. Pourtant, je suis misérable. Tu me donnes plein de choses malgré tout cela. Donc, une prière, l'humilité, reconnaître. La deuxième chose, c'est une prière de foi dans les promesses de Dieu. Tu as dit à Abraham, tu as dit à Isaac, et tu me dis à moi des choses. Alors, quand il est en train de rappeler à Dieu les promesses qu'il lui a faites, et il est en train de montrer qu'il a confiance que Dieu... Et c'est aussi une prière de gratitude parce qu'il reconnaît que Dieu a fait beaucoup pour lui. Et c'est une prière aussi qui glorifie Dieu parce qu'il est conscient qu'il est un maillon de la lignée messianique. Imaginez-vous quelqu'un qui prenait conscience dans le temps qu'il était un maillon de la lignée messianique. Tu es conscient que Dieu va passer par toi pour amener Jésus-Christ, mais que là, tu vois une menace arrivant devant toi. Puis tu dis, ben non, je ne pourrais pas devenir la lignée messianique, il s'en vient avec 400 hommes, puis il va me tuer. Alors là, où tu crois ce que Dieu te dit, ou tu cèdes à la peur. Et ici, on voit que Jacob cède à la peur. Je pense que le Seigneur, il met ça dans les Écritures pour nous montrer que nous aussi, on fait la même chose. Troisième idée, 13 à 23. On voit que pour s'en sortir, il va utiliser des moyens charnel. Il passa la nuit en ce lieu-là. Il prit ce qui lui vint en la main pour faire un présent à son frère. Voyez-vous encore des petits trucs? Il s'est dit, ben là, si j'y fais des petits cadeaux, il va se calmer. Fait que là, je vais y envoyer un paquet d'animaux, puis je vais faire ça en c'est comme s'il divisait ça en trois, envoyez-en le tiers. Là, il va te demander, c'est quoi ces affaires-là? Il dit, tu répondras, c'est ton serviteur Jacob qui t'envoie des cadeaux. Puis regardez-moi la quantité. Pour l'époque, c'était une fortune monumentale. Parce que, regardez bien, on va le lire. Pour faire un présent, et il prit de ce qui vient dans la main pour faire un présent à Ésaü, son frère, 200 chèvres et 20 boucs. 200 brebis et 20 béliers, 30 chamelles qui allaitaient avec leurs petits, 40 vaches et 10 taureaux, 20 ânesses et 10 jeunes ânes. La Bible nous enseigne que les présents sont utiles pour calmer les esprits. Proverbe chapitre 21, verset 14. Le don fait en secret apaise la colère et le présent mis dans le sein, calme la fureur la plus véhémente. Si vous calculez le nombre d'animaux qu'il a donné à son frère, ça fait le chiffre de 580. 580 bêtes à cette époque-là, c'était une fortune considérable. Et il envoyait ça à son frère, et son but, c'était, je vais l'amadouer par des cadeaux, il va se calmer, puis on va pouvoir avoir la paix. Mais là, il prenait... Son frère n'a pas été calmé par les brebis, ni par les vaches, ni par les chamelles. C'est Dieu qui permettait que son frère, même après 20 ans, avait oublié l'offense qui s'était produite à 20 ans. Donc, son don est plus que généreux, 580 bêtes. De plus, c'est un don qui est harmonieux, dans le sens que il prend la peine de faire un mélange de mâles et de femelles. Parce que quelqu'un qui reçoit un cadeau d'animaux, si tu reçois juste des mâles, mais si tu reçois des mâles et des femelles, ça veut dire que ça, sur le long terme, ça va se multiplier. Et il leur envoie aussi des animaux en termes de leur utilité. Certains sont là pour la nourriture, d'autres sont là pour le vêtement, d'autres sont là pour le transport, et d'autres sont là pour la force motrice des bœufs, sert à la force motrice à labourer la terre. Donc, Jacob met sa foi en ses dons. Les dons. Il fait des dons à son frère, puis il s'imagine que c'est à cause de ça qu'il va avoir la paix. Et là, on voit aussi sa tendance à être habile dans sa manière de présenter les choses dans le verset 16 à 19. Et il mit entre les mains de ses serviteurs chaque troupeau à part et dit à ses serviteurs, « Passez devant moi et mettez de la distance entre un troupeau et l'autre. » Et il donna ordre au premier en disant, « Quand Ésaü, mon frère, te rencontrera et te demandera, « À qui es-tu? Où vas-tu? Et à qui sont ces bêtes devant toi? » Tu diras à ton serviteur Jacob, « C'est un présent qu'il envoie à Ésaü, mon seigneur. Et le voici qui vient lui-même après nous. » Il donna le même ordre au second, au troisième et à tous ceux qui allaient après les troupeaux en disant, « Vous tiendrez ce langage à Ésaü quand vous le rencontrerez. » Voyez-vous, il s'imagine que si ça se fait graduellement, s'il dit « J'envoie les 580 bêtes d'une shot », ça calmera pas assez. Je vais prendre les 580, je vais les diviser en trois, puis je vais les envoyer par shot. Il en envoie une première shot, puis là, il dit... Mais quand le deuxième va arriver, il va te demander encore « C'est quoi ça? » C'est encore un autre présent. Puis la troisième va arriver, c'est encore un autre présent. Fait que là, lui, il s'est dit, que je suis donc habile. Hein? Je vais acheter la paix avec mes petits trucs. Alors, la verset 20 et 21, et il vous dirait, voici même ton serviteur Jacob qui vient derrière nous. Car il se disait, je l'apaiserai par ce présent qui va devant moi. Et après cela, je verrai sa face. Peut-être qu'il m'accueillera favorablement. Le présent marcha donc devant lui, mais lui, il passa cette nuit-là dans le camp. Donc, il place sa foi, encore une fois, dans son habileté. On va voir, on le voit par l'expression qu'il dit « je l'apaiserai par ce présent ». Mais il doute quand même de ce qui peut arriver. Peut-être m'accueillera-t-il favorablement. Et verset 22 à 23. C'est là qu'on voit qu'il n'avait pas confiance en Dieu parce que là, il prend ses femmes, verset 22-23, et il se leva cette nuit, prit ses deux femmes, ses deux servantes, et ses 11 enfants, et passa le gué de Jabbok, et il les prit donc, il les fit passer le torrent, et il fit passer ce qu'il avait. Autrement dit, traverser un gué, il s'assurait sa protection par un genre de barrage physique. Autrement dit, il faudra qu'il traverse, puis ça me donne du temps. Encore là, il se fiait plus à lui-même qu'à Dieu. Alors, on voit que l'être humain est pas mal toujours le même. Il est toujours porté à se fier à lui-même plutôt qu'à... Alors, il décide de protéger ce qu'il a de plus précieux. Ses deux épouses, leurs servantes, ainsi que ses 11 enfants. Il maîtrise sa peur et il prend les moyens de ne pas retraiter devant le moment de la rencontre avec Ésaü, qu'il redoute. Il a peur, mais il prend le moyen pour ne pas retraiter. À quelque part, quand on se souvient de ce qui va se passer après, là, il va rencontrer l'ange de Dieu avec qui il va lutter, qui va lui démancher un muscle à la hanche, la marche chrétienne. En tout cas, on ne commencera pas le sermon de l'autre semaine, mais il reste que, autrement dit, toutes ces tactiques qu'il a essayé d'utiliser pour apaiser son frère, c'est pas ça qui a marché. C'est Dieu qui lui est apparu, qui a lutté avec lui durant la nuit, et qu'après la nuit, il a compris que c'était Dieu qui intervenait. Et quand ils se sont rencontrés, les deux frères, ils ont tombé les bras l'un de l'autre, puis ils se broyaient là, sur l'épaule l'un de l'autre. Alors, autrement dit, sa crise qu'il appréhendait, elle va terminer avec un beau gros zéro. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a préparé. Et il va lui préparer aussi, il est en train de le préparer à la rencontre qu'il va faire durant la nuit, là. Il va se battre une nuit de temps avec une personne qui lui est apparue. Et On pense que c'est une théophanie de Jésus-Christ qui l'a, dans la nuit, là, ils se sont battus et on verra ça la semaine prochaine. Alors, trois applications que je vois du texte d'aujourd'hui qu'on peut faire pour nos propres vies. La première, on peut glorifier Dieu en prenant conscience de la protection et du service constant des anges qui exercent leur ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Ça vous est-il déjà arrivé de remercier Dieu pour le ministère des anges qu'il a exercé au cours de toute vie depuis que vous êtes chrétien? On n'est pas pourtant à faire ça. Parce que, à cause qu'on le voit pas, on pense que ça n'existe pas. Mais Dieu dit qu'il envoie des anges pour nous protéger, pour exercer un ministère en faveur de ses élus, en faveur de ceux qui ont hérité du salut. Même si on ne l'a pas vu, clairement, on devrait remercier Dieu en lui disant, « Je sais que tu as envoyé des anges de façon constante dans ma vie, de façon régulière, pour faire toutes sortes de choses dans ma vie dont je n'ai pas pleinement conscience, mais je te rends grâce pareil, parce que je sais que tu l'as fait. » Parce qu'il dit dans la parole. C'est pour ça qu'on peut savoir que c'est vrai. La deuxième, je dirais, renonçons à nos moyens charnels pour nous sortir de situations que nous appréhendons avec crainte et angoisse. Quand on sait qu'il y a une crise qui s'en vient, on est tous portés, comme Jacob, à utiliser des moyens charnels pour essayer de s'en sortir, plutôt que de faire confiance à Dieu et de le prier en premier et non pas en dernier. Confions-nous entièrement au Seigneur en respectant l'ordre suivant. La prière d'abord, et non lorsque nous avons épuisé tous nos moyens. La prière d'abord et de façon entière, en ne revenant pas à l'utilisation des moyens charnels. Parce que des fois, on peut faire on peut prier, mais on est porté à revenir encore aux moyens charnels. Et aussi, en ne retraitant pas. Quand Dieu permet qu'on voit une situation de crise arriver, on est porté à se pousser et à essayer que ça n'arrive pas dans nos vies. Ne retraitons pas. Si Dieu veut que tu traverses une crise, tu vas la traverser. Mais il va aussi t'envoyer le moyen pour que tu puisses la traverser convenablement et bibliquement. Parce que les promesses qu'il a faites à Jacob, il les fait à nous aussi. Sa présence, sa protection, sa soutenance et toutes les choses qu'on a dit, sa fidélité. Troisième chose, apprenons de la prière de Jacob. Si on prend la première prière, si c'est vrai la loi de la première mention, je crois que c'est vrai, là, chaque fois que le Seigneur présente quelque chose, la première fois dans la Bible, c'est la première prière écrite de la Bible. Alors, si c'est la première écrite de la Bible, c'est que le Seigneur veut nous enseigner par les éléments qui sont présents à l'intérieur de cette prière-là, des principes importants. Et quels étaient les principes qu'on a vus tantôt? L'humilité. Quand tu te présentes devant le Seigneur, je suis conscient, Seigneur, que j'ai plus de grâce que j'en mérite. C'est ce qu'il a commencé à dire. Hein? Autrement dit, il est en train de nous montrer, apprends à prier en regardant comment Jacob prie. Aussi, c'est une prière reconnaissante. Il se rend compte que tout ce qu'il a, c'est pas parce qu'il est plus fin qu'un autre, avec le temps, Dieu lui a montré, il va lui montrer encore de plus en plus que toutes les bénédictions qu'il a reçues en étant chez son beau-père, ses femmes, ses enfants, ses animaux, c'est tout Dieu qui travaillait par en arrière, même si lui, au début, croyait que c'était lui, que c'était le fruit de ses finasseries, comme on pourrait dire. Et la Bible nous apprend clairement après que ça venait de Dieu. Donc, aussi, la foi dans les promesses divines est en train de rappeler à Dieu que oui, tu as promis et il faut faire confiance à Dieu. J'avais déjà dit, il existe des théologiens qui, dans le passé, ils ont pris toute la Bible au complet. Ils ont lu tout partout ce que Dieu fait les promesses et ils ont mis ça dans le même volume, je l'ai à la maison, ceux que ça intéresse. Dieu fait énormément de promesses dans les Écritures. Pour nous, pourtant, première chose, on les connaît peu. Deuxièmement, premièrement, tu devrais les connaître. Deuxièmement, tu devrais y croire. Quand Dieu fait une promesse, quand il dit « Je suis avec toi jusqu'à la fin du monde », quand Jésus a dit « Et voici, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Est-ce qu'il est avec nous aujourd'hui? Est-ce qu'il va être avec nous demain? Est-ce qu'il va être avec nous jusqu'au dernier jour? Oui. Mais on le sait, mais on ne fait pas confiance. Alors, apprenons de la prière de Jacob l'humilité, la reconnaissance, la foi dans les promesses divines et aussi toujours croire aux prières avec l'objectif de la gloire de Dieu. Quand on prie, on devrait toujours garder à l'esprit qu'on le fait pour la gloire de Dieu. Alors, notre glorieux Seigneur est fidèle. Il nous prépare et nous accompagne toujours dans nos moments de crise. Qu'il soit loué, béni et adoré éternellement. Amen.
Amen.